Il y a plusieurs personnes qui veulent être, qui veulent commanditer Mathieu ou qui veulent être bénévoles pour lui. Là, on est en train de prendre tous les messages, puis on va vous vous communiquer ses coordonnées.
Bonne idée. C'est bonne idée.
On va faire la courroie de transmission, c'est ce qu'on est capable de faire.
Voilà.
Il y a quelqu'un qui dit, voyons donc, il n'y a pas de pauvres au centre d'achat le 24 décembre. Quand on est pauvre, on ne court pas les centres d'achat. Erreur, monsieur.
Erreur, en effet, parce que c'est un endroit pour être à l'abri. C'est un endroit pour être au chaud. Puis quand on parle de gens qui sont dans le besoin, c'est là qu'ils vont se cacher.
Et les aires de restauration des centres commerciaux abritent beaucoup de gens qui sont seuls. Vous savez, la misère n'est pas seulement financière. Elle est aussi humaine.
C'est la solitude.
C'est l'isolement. Parce que la solitude, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Tu choisis d'être seul. Mais
si tu choisis d'être seul, je te comprends.
L'isolement, n'avoir personne, ça, c'est grave.
Et d'avoir cette impression que personne ne vous attend et que personne ne se préoccupe de vous.
Alors, cette misère-là, elle existe aussi. Et à Noël, c'est, disons, une bonne idée de la soulager, cette misère-là. Mais les aires de restauration sont effectivement dans les centres commerciaux, des endroits où beaucoup de gens misérables, à plusieurs points de vue,
complètement d'accord,
vont s'héberger au chaud pendant quelques heures.
Voilà.
C'est...
Et rêve peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui ils vont pouvoir engager la conversation pour avoir un moment de vie plus heureux.
Et sais-tu à Phoenix où est-ce que les gens pauvres et malheureux se réfugient?
Non.
Dans les autobus parce qu'ils sont climatisés.
Ah tiens, ça, j'avais jamais entendu ça.
Ça coûte une pièce à certaines heures de prendre l'autobus. Il y en a même qui sont gratuits à Phoenix. Et honnêtement, là, quand je me suis dit que je me retrouve, j'ai pris des autobus à Phoenix souvent, puis là, je me dis, c'est un asile ici, c'est des gens qui crient fort, qui prennent leur bien. Puis je me suis aperçu qu'ils prenaient l'autobus pour se mettre à l'abri de la chaleur.
Ça, j'avais jamais entendu ça.
C'est un peu comme chez nous, il y a des gens qui vont dans les centres commerciaux pour se mettre à l'abri du froid.
Voilà.
OK. Je voulais qu'on jase un peu de Tony Clement. J'ai de la misère avec l'idée qu'un ancien ministre, un député, quelqu'un qui est réputé...
Attends. C'est qu'on le connaît mal au Québec, mais Tony Clement, il a été ministre dans le gouvernement provincial de Mike Harris. Il a été candidat à sa succession, puis il a perdu par très, très peu. Il a ensuite été candidat deux fois au leadership des conservateurs. Il a été un ministre très, très important du gouvernement de Stephen Harper. Et il était considéré comme une vedette du caucus conservateur, rien de moins.
Puis là, il s'est retiré du caucus. Enfin, il reste dans le caucus, mais il s'est retiré de ses fonctions de critique.
Oui.
Soi-disant, parce que il a, au cours des trois dernières semaines, posé des gestes indécents devant sa caméra en pensant qu'il parlait à une jolie femme de 20 ans qui a certainement envie de voir la quéquette d'un homme de 57 ans.
Et il la croyait consentante, dit-il.
Il la croyait consentante, puis en réalité, il avait affaire à des arnaqueurs qui font ce qu'on appelle de la sextorsion. C'est-à-dire qu'ils te piègent, puis une fois que tu t'es commis, là, après ça, ils te font chanter. Mais... veux-tu bien me dire comment quelqu'un qu'on présente comme quelqu'un d'intelligent peut en arriver à se montrer à quéquette devant une caméra à un inconnu?
J'oublie le nom là, de celui qui était marié avec l'adjointe de Hillary Clinton, qui a été membre de la Chambre des représentants de New York. J'espère que j'ai le nom Elliot Spitzer en tête, mais c'est pas celui-là.
Et lui, il avait démissionné en compagnie, puis il avait fait sa conférence de presse en compagnie de sa femme.
C'est ça. Puis après que tout ça se soit passé, deux ans plus tard, bang, il a été repris à faire la même chose. C'est des drôles de perversions, hein. Je veux dire, les gens font bien ce qu'ils veulent en privé, puis je suis pas de ceux qui pensent que la masturbation rend sourd, là.
Mais
je veux dire, écoute, t'es ministre ou ancien ministre, t'es donc membre du conseil privé de Sa Majesté, comme on les appelle. Ouais. Et puis là, tu t'amuses à faire des affaires comme ça, sans te méfier que t'es en train de te faire prendre dans un piège. Mais voyons donc!
OK. Il y a quelque chose là-dedans qui me... Écoute, ce matin, j'étais tellement incrédule que je me dis, ça cache-tu d'autres choses?
Que veux-tu dire par là?
Ben, il s'est fait piéger comme n'importe quel ado de 18 ans.
De 15 ans, oui.
Inexpérimenté risque de se faire piéger. Mais quand ça arrive à quelqu'un de totalement inexpérimenté et désœuvré, je peux encore comprendre. Mais un homme de son calibre, à 57 ans, qu'est-ce qu'il pensait? Winner, le nom que tu cherchais.
Oui, c'est ça, oui.
OK. Comment est-ce que tu peux penser qu'une jeune femme de 20 ans russe a envie sincèrement de voir tes parties génitales.
En action.
En action. Veux-tu me dire quel manque de jugement? Et j'en suis à me dire, coudonc, à l'époque où il a été ministre de la Sécurité publique, un bout?
Ça? Je pense non? que oui. Bon. Je suis pas sûr, mais je pense que oui.
Y avait-tu déjà des mauvaises habitudes de même? est-ce que cet homme-là, depuis longtemps, peut être victime de chantage?
Oui, c'est une question légitime, en effet. Et là, en plus, il faisait partie du comité sur les questions de sécurité nationale à la Chambre des communes. Alors, la GRC mène une enquête pour savoir si le sextorsion, comme on appelle l'extorsion dont qu'on essayait de lui faire vivre, impliquait des renseignements. Est-ce que c'était uniquement pour avoir de l'argent ou si ça pouvait pas être des agents étrangers? Moi, là-dessus, je suis pas, tu sais, je suis membre du comité de la sécurité nationale, compte tenu de la façon dont fonctionne le système parlementaire à Ottawa. C'est pas des gens qui sont au courant de ben des affaires dangereuses pour la sécurité du pays. Néanmoins, ça donne la mesure de l'insignifiance du geste posé. Il faut vraiment être en manque pour aller faire des choses comme celle-là. Il est marié, il a des enfants. Imagine, il doit passer à...
Puis tu sais, il peut... Moi, j'ai rien contre l'idée qu'il se masturbe, mais il n'y a pas besoin d'une caméra pour ça, là.
Ouais, puis il n'y a pas besoin qu'on le sache. Puis arrêtez-vous, là. De quoi s'agit-il? C'est d'un mauvais goût, en plus. C'est carrément vulgaire, là, tu sais. D'aller faire ça devant une caméra. Caméra, mesdames et messieurs, ou un microphone. On apprend ça dans le métier que moi et Myriam pratiquons, là. Mm-hmm. Quand t'es dans un studio, là, mais prends pas de chance à dire des conneries. Tout à coup, qu'il y a un micro d'ouvert.
C'est ça.
N'est-ce pas?
On ne dit jamais devant un micro quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il soit diffusé.
Ben voilà.
Il y en a en masse qui se sont fait prendre.
Ah, il y en a toujours qui se font prendre. Mais, il y en a toujours qui se font pendre.
Visiblement, il y a un auditeur qui dit « Le jugement va pas avec le QI, j'en ai de belles preuves. » Mais je te dis, là, je trouve ça tellement invraisemblable, venant d'un homme de son calibre, de son calibre, que je me dis « Ça cache-tu d'autres choses? »
Ben, c'est une forme de perversion, hein, de faire ça. J'imagine que ça l'excitait de penser qu'une jeune femme de 20 ans est en train de le regarder. J'imagine. Et ça devait comporter une forme d'excitation sexuelle. C'est comme toutes les perversions. Celle-là est moins dommageable que la pédophilie, mais ah, pas bien plus intelligente.
Non, elle est certainement pas plus intelligente. Puis là, il est hâte, tu sais, à 55 ans, à 57 ans, il est pas à bout d'âge, là. Il y avait encore probablement un ministère qui l'attendait
conservateurs étaient revenus au pouvoir, il était certainement un ministrable. Il était obligatoirement ministre.
D'ailleurs, Andrew Scheer a réagi. Veux-tu qu'on l'entende?
Oui, allons-y.
Allons-y.
C'est inquiétant que quelqu'un a mis à lui-même dans cette situation. C'est une très mauvaise jugement. Et la première fois que j'ai eu une opportunité de parler avec M. Clément face à face, c'est lundi, on a été mis au courant de la situation et nous avons discuté.
Là, il conserve son poste dans le caucus conservateur, mais il n'y a plus de rôle de critique. Et M. Scheer n'a pas voulu dire s'il va le prendre comme candidat aux prochaines.
Ah, ben là, tu sais, il faut laisser l'eau, faut laisser la poussière retomber,
Mais des fois, tu te dis, c'est-tu du suicide politique, cette affaire-là?
Ben, tu te le demandes, oui. Peut-être que le gars, je sais pas. Peut-être que oui, tu sais, tu te souviens du cas de Claude Charron.
Claude Charron avait dit que c'était littéralement un suicide politique.
Ouais, voilà.
Il savait pas comment sortir, puis il est sorti de la pire des manières.
De la pire des manières possibles. Est-ce que c'était une version plausible, peut-être? Moi, j'aime bien Claude Charron, alors j'ai tendance à le croire.
Il est 13h42. Dans un instant, on va faire un tour dans les patates.
OK.
C'est égal la voix.